RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Nous y voilà, 6h11, bonjour à toutes et à tous. Déjà, première chose, excellent week-end avec nous. Ça y est, nous y sommes en ce 15 juin 2019. Et vous le savez, le samedi dimanche matin sur RMC entre 6h et 10h, j'ai le plaisir d'être avec vous, de vous accompagner avec les meilleurs experts de France. Demain, 3 heures d'automobile avec Jean-Luc Moreau et une interview exceptionnelle d'une heure en direct avec le patron de Peugeot. On aura l'occasion d'en reparler. Mais au menu de ce samedi, tout à l'heure, la vie numérique arrive avec Raphaël Grably. Est-ce qu'aujourd'hui un appareil photo est toujours aussi pertinent quand on voit que les smartphones font des photos de plus en plus belles? On évoquera ce sujet tout à l'heure avec Raphaël Grably et puis un spécialiste de la photo qui sera avec nous. Dans notre rendez-vous Forme Santé avec Christian Ekia, on évoquera le diabète et typiquement le diabète de type 2 qui est véritablement une vraie menace pour la santé. Ce sera notre gros sujet santé de ce samedi avec Christian. La maison, comment sécuriser sa maison à l'approche des vacances, les alarmes et tous les autres systèmes qui nous permettent justement de partir tranquille. Ce sera avec Christian Pesset, nos invités, mais pour débuter, le jardin bien sûr. Patrick Mulan, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous. C'est très très bien vu dans nos jardins, un petit peu mouillé mais vraiment encore très joli.
Oui, c'est vrai, c'est dingue ça, 40 degrés hier à Ajaccio.
Ça c'est exceptionnel, il y avait que là. Hein.
Ouais. Mais je pense que les plantes ont dû avoir un petit coup de chaud. Hein.
Alors, dans la région...
Cela dit, elles ont un peu l'habitude.
Voilà, les plantes sont quand même adaptées au climat. Et
mais si vous êtes dans la région d'Ajaccio, j'espère que vous avez bien pensé à arroser, parce que là...
Oui, il faut y penser. Bon, là, la température s'est abaissée. C'est vrai que c'est un peu exceptionnel. Alors après, un gros coup de chaud qui dure pas très longtemps, ce sera non plus quelque chose de catastrophique, sauf pour certaines plantes qui ne le supportent pas. Par exemple, on va pas cultiver des mirabelles de Nancy à Ajaccio. Ça serait vite,
non,
ça serait mieux.
Non, ça c'est vrai. Voilà. Le jardin, vous le savez, 6h-7h sur RMC avec Patrick, avec tout à l'heure vos coups de cœur, coups de gueule, bien sûr. Et on évoquera la magie de la pollinisation.
Alors la magie de la pollinisation, l'utilité de la pollinisation, les mesures à prendre pour favoriser les pollinisateurs.
Parce que c'est maintenant là.
Alors c'est maintenant et parce qu'il y a aussi une grande opération nationale qui a commencé hier et qui va durer jusqu'au 23 juin, qui s'appelle « Des fleurs pour les abeilles ». Où beaucoup de professionnels, à la fois dans le domaine du jardin, mais aussi dans le domaine de l'apiculture, se sont mobilisés pour aussi vous offrir des graines.
Ça, c'est chouette.
Il y a plus de 100 000 sachets à avoir, donc vous pourrez avoir semé des graines de fleurs pollinisatrices chez vous.
On en parle tranquillement tout à l'heure, hein, Patrick, bien sûr. Ça sera notre dossier de ce samedi. Et puis, vous le savez, vos questions jardin dès maintenant, 32-16. On est branché sur l'appli RMC Direct Studio, mon écran est là et dès que vous envoyez un petit message via votre smartphone, il apparaît ici. N'oubliez pas votre numéro de téléphone, ça nous permet de vous joindre encore plus rapidement. Bienvenue, c'est parti pour ce week-end des experts et on salue tous ceux qui travaillent en ce samedi matin qui sont d'ores et déjà avec nous. On pense à vous et on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter. Jean-Luc, pour débuter, avant de parler de binage, de griffage et d'autres réjouissances de ce type. Jean-Luc, bonjour.
Oui, bonjour François et Patrick.
Bonjour Jean-Luc.
Et à toute l'équipe d'RMC.
Et welcome Jean-Luc.
Donc voilà. Moi j'ai un petit souci avec mes arbres fruitiers depuis quelques années. Donc tous les ans j'ai des chenilles qui ont tendance à monter sur mes arbres fruitiers. Mmh. Et ensuite j'ai la cloque qui apparaît et cela après les grands froids. J'ai des cerises. J'ai un beau cerisier qui, lui, me donne toujours des cerises, bien sûr. Par contre, pommier et poirier, ça fait 4-5 ans, je n'ai plus rien.
Donc, voilà. Alors, vous m'avez envoyé des photos. Alors, oui. Il faut bien dire que la maladie de la cloque n'attaque ni les pommiers ni les poiriers. C'est une maladie qui est spécifique des pêchers. Donc, ce que j'ai vu sur vos photos, ça n'a strictement rien à voir. Et ça ressemble très, très, très fortement à des attaques de pucerons, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà déroulé les feuilles qui
les
sont
feuilles,
enroulées?
Oui, oui, oui.
Il n'y a rien à l'intérieur?
Il n'y a rien. Je ne vois rien d'apparaître.
Parce que, normalement, c'est là que les...
Après, les feuilles roulées, effectivement, ce que je vois apparaître, parfois, il y a... une gerbe de comme une toile d'araignée.
Mais oui, mais non ouais. Mais c'est ça. En fait, vous avez des attaques de pucerons qui se mettent sous les feuilles. Alors ils sont petits et ces feuilles se contractent par rapport aux piqûres que les pucerons font, puisqu'en fait ce sont ce qu'on appelle des insectes piqueurs suceurs, donc ils piquent le limbe et ils absorbent la sève, et en même temps, un peu comme les moustiques, eh bien, ils ont une salive qui est un petit peu toxique, et donc la plante réagit. Et en même temps, ces pucerons donc, se protègent en faisant en sorte que la feuille s'enroule, et donc ils sont bien à l'abri là-dessous. Donc c'est vrai que ce n'est pas très commode de les déloger, d'autant qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement plus rien pour le faire. Et on va... c'est pas ça, en revanche, qui va empêcher la floraison et la fructification. Donc, ma question par rapport à la fructification, est-ce que vos arbres fleurissent ?
Les arbres fleurissent, les arbres donnent leurs feuilles, et c'est juste après qu'effectivement, j'ai ces attaques.
Non mais, bon, passons. Si vous voulez, l'attaque que vous avez de pucerons, c'est quelque chose de courant, de classique,
oui,
de banal.
Oui, qui arrive, voilà.
Il n'y a pas à s'alarmer. Ce qui est gênant, c'est le fait que vous n'ayez pas de fruits. Parce que vous ayez quelques feuilles cloquées, c'est pas pour autant que la plante va pas supporter ça. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi mes pommiers, mes poiriers fleurissent et ne forment pas de fruits. Ça veut dire
qu'ils arrivent à former des fruits, mais ce sont ils avortent entre guillemets, j'allais dire.
Ils n'arrivent pas à maturité, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais.
Ça alors. Donc ça veut dire que vous avez soit d'autres insectes du style Hoplocampe par exemple, donc ou Cécidomie, qui vont pondre à l'intérieur des tout petits fruits en formation et qui effectivement, lorsque la larve s'est développée, entraîne la chute prématurée des fruits. Soit vous avez une exposition de votre verger qui n'est pas adéquate, notamment quand on se trouve dans une circulation d'air, donc dans une sorte de courant d'air qui gêne énormément la pollinisation et aussi la mise à fruits. Où il y a plein d'enquêtes à faire autour de ça pour essayer de voir pourquoi vous avez une chute prématurée de ces fruits. Donc là, j'ai pas suffisamment, si vous voulez, d'éléments pour pouvoir répondre complètement. Ouais. Mais pour en venir à vos feuilles cloquées, c'est pas alarmant. Donc ce qu'il faut quand même, c'est faire en sorte de faire quand même une bonne taille de vos arbres fruitiers. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bois, par exemple. Il ne faut même pas hésiter à couper un petit peu les jeunes branches lorsqu'elles sont au début de végétation, toutes cloquées. Et ça, on brûle tout ce monde-là pour éliminer les populations. Parce que, de toute façon, aujourd'hui, par rapport à la loi Labbé, il ne nous reste plus qu'un seul insecticide de contact d'origine naturelle qui s'appelle le pyrèthre naturel et qui sera strictement sans aucun intérêt. Parce qu'une fois que les pucerons sont à l'intérieur de ces feuilles roulées, ils sont très protégés. D'autre part, le pyrèthre naturel étant aussi toxique pour les abeilles, eh ben, il vaut mieux éviter de les utiliser au verger, notamment, évidemment, et ça je rappelle à tout le monde, on ne traite pas pendant les floraisons. Et quand on veut vraiment utiliser un insecticide, eh bien, il vaut mieux l'appliquer le soir, puisque les abeilles sont en repos en fin de journée. Les abeilles, en fait, ça fait ses 35 heures. Enfin, plus ou moins, c'est un clin d'œil. Donc, dès que la lumière tombe, eh bien, elles rentrent à la ruche.
Elles ont les heures sup ou pas ?
Non, justement, elles ne font pas d'heures sup.
Voilà. Oui, mais elles font le buzz. C'est ça qui est bien quand on est une abeille. Oui, ça va, c'est pas mal. 6h20, merci en tout cas Jean-Luc pour votre appel. Il est temps maintenant de retrouver notre conseil.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Oh. Le conseil de ce samedi de Patrick. On va parler binage, griffage, décompactage et sarclage.
Ah, qui sont l'ensemble de toutes les mamelles du jardin. C'est ça, ou du jardinage.
Alors pourquoi, Patrick, il est nécessaire aujourd'hui de travailler superficiellement la terre du jardin ? Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas trop à quoi ça sert.
Alors, ben justement, j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a eu quand même pas mal de précipitations. Et les précipitations, quand elles sont fortes, et notamment quand elles sont orageuses, elles entraînent ce que l'on appelle la battance. La battance, c'est-à-dire que le fait que les gouttelettes d'eau viennent taper fortement sur le sol, ça crée un compactage. Et donc, vous avez une croûte qui peut se former à la surface et qui va notamment se durcir dès que le temps va augmenter en température et surtout en ensoleillement. Et ce compactage, eh bien, lui, il va devenir à la fois néfaste pour la végétation parce que ça fait une couche imperméable qui va empêcher la pénétration de l'eau d'arrosage ou de l'eau de pluie. Et puis ça devient aussi étouffant pour les racines puisque ça ne permet pas à l'air de pénétrer. Donc, on a besoin de travailler superficiellement la terre du jardin pour décompacter, pour casser cette croûte, si je puis dire. Hein, la croûte autrement, mais là, c'est pour le jardin. Et décompacter ce sol, donc, qui va aussi, avec la battance, se colmater. Parce que vous avez des toutes petites particules, notamment dans les terrains argileux ou argilo-calcaires, qui viennent s'agglutiner les unes les autres et qui forment quelque chose de totalement étouffant pour les racines.
Patrick, on dit souvent « un arrosage vaut deux arrosages ». Est-ce que c'est vrai ?
Alors ça, c'est plus ou moins. Un binage par temps de pluie, comme ce que l'on a eu là maintenant, eh bien c'est valable, oui, puisque en fait, ça va, en décroutant la terre, permettre de bien pénétrer en profondeur.
Oui, c'est comme si on la déimperméabilisait, en quelque sorte.
Oui. Et aussi, il faut dire que le binage, donc, qui consiste en fait à décrouter la terre avec un fer plat de la binette, ou même de la serfouette, si vous voulez, ou même de ce qu'on appelle, si vous voulez, vous baisser et vous casser le dos, bien vous avez ce qu'on appelle des ratissoirs. Les ratissoirs, en fait, sont des sortes de binettes à grands manches qui, au lieu d'être utilisées par un mouvement tirant, que la binette, en fait, elle a le fer qui est recourbé vers l'arrière. Donc, vous tirez avec les bras vers vous et vous avancez. Enfin, vous avancez. J'allais dire, vous avancez en reculant. Et c'est vrai que vous progressez, on va dire, en reculant. La ratissoire, à l'inverse, est un outil avec la lame qui est dirigée vers l'avant et que vous poussez. Ça, c'est bien dans les sols très très durs parce que vous avez plus de force en poussant qu'en tirant. Et là, en plus, vous travaillez debout.
Quelle est la différence entre le binage et le griffage ?
Alors, le binage, je viens d'expliquer que c'est une lame plate, en général, on va dire de 12-13 cm de large, 15 maximum, qui va casser vraiment la croûte superficiellement. Oui, oui. On va dire que ça rentre à l'intérieur et ça casse. Le griffage, lui, il va travailler superficiellement avec des petites dents. Ils vont simplement,
quelle est la différence en fait entre
les deux ? On va travailler le griffage surtout sur des terres qui sont régulièrement entretenues. Ça va très très vite. On passe comme ça entre les plantes et puis simplement c'est pour aérer. Quand vous avez vraiment une terre qui a été dure, colmatée, il faut faire un binage.
Et le sarclage alors, qu'est-ce que c'est ?
Le sarclage c'est la même chose que le binage, sauf que on coupe les mauvaises herbes en même temps. Donc en fait, on élimine de façon manuelle la végétation sauvage que l'on n'a pas envie. Alors attention, il ne suffit pas simplement de passer la binette comme ça, puis de laisser tout ce monde-là en place. Il faut ramasser.
Et oui, parce que comment ça peut repousser.
Ça repousse, oui, en général. Oui.
Eh bien, dites-moi. Bon, est-ce que vous avez votre bac binage maintenant ? Vous savez tout ? Eh bien, tant mieux. C'est grâce à Patrick. Dernier petit conseil, Patrick. Eh
bien, terminez tout ça quand vous avez bien biné ou bien griffé par un paillage. Parce que ça va bien protéger la surface du sol.
Parfait. Écoutez, on est au top. On revient dans un instant et on va attaquer notre dossier de ce samedi. On va évoquer la pollinisation et les pollinisateurs. C'est la période et vous allez voir qu'il faut soutenir évidemment cette action et encourager les abeilles à justement pouvoir polliniser. C'est dans un instant. Vos questions, tiens, 3216, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Se posant par cent et par mille, sur les fleurs qui s'ouvrent à peine.
Oh bah attends alors.
Elles butinent leur pistil.
Ah, bzz, bzz, bzz.
Pour en extraire le pollen.
Eh oui. Bzz, bzz, bzz. Ah, bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz.
Les abeilles.
Ah, Patrick. Vous l'avez reconnu,
Bonville.
Et Bonville, bien sûr.
D'avoir pu faire des succès comme ça et même qui couvre les générations, enfin qui passe de génération en génération avec des trucs aussi.
Alors bon, malheureusement, on n'entend plus trop ça. Hein. Paul l'a déterré, la sortie du tiroir qui était au fond de la cave des RMC. Mais ça marche toujours.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Et voilà, c'est ça. Et en plus, ben voilà, c'est toujours d'actualité parce que les abeilles, on ne se rend pas compte de l'importance des abeilles hein, dans l'écosystème et dans le, on va va dire, oui, la biosphère, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important. Oui. Et en quoi consiste, parce que là, on parle cette semaine étonnante du 14 au 23 juin, c'est cette opération nationale des fleurs pour les abeilles. En quoi consiste cette semaine des fleurs pour les abeilles, Patrick?
Eh bien, l'idée, c'est simplement de favoriser le semis, donc en fait l'épanouissement de milliards de fleurs, de milliards, je dis bien, parce qu'en fait on va distribuer en France 100 000 sachets de graines qui contiennent chacun l'équivalent de 1000 fleurs. Donc ça fait vraiment
ça fait un milliard. Ça fait 100 000 fois 1000.
Et l'idée en fait c'est d'alimenter les abeilles pendant la période estivale, parce que une des nombreuses causes de disparition ou de raréfaction des pollinisateurs, c'est principalement le fait qu'ils n'ont plus à manger.
Ah oui.
Ils n'ont plus à manger, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agriculture a évolué. On est quand même dans une agriculture industrielle de monoculture la plupart du temps. On n'a plus non plus de bocage, c'est-à-dire donc des haies d'espèces naturelles. Alors j'ai vu quand même, il faut quand même de temps en temps avoir un regard
un peu positif, oui bien sûr.
En me baladant pas mal en France ces derniers temps, que les bords de chemin et que les champs étaient de plus en plus peuplés de moulicots. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a réduit l'utilisation d'herbicides et que ça permet la végétation spontanée de plantes sauvages. Or, il faut des fleurs sauvage, varié. Pourquoi sauvage? Parce que dans les jardins, lorsqu'on utilise des plantes horticoles très sophistiquées, avec des grosses fleurs,
oui, qui ont été manipulées en quelque sorte.
Manipulées si on veut, mais en fait, ont été croisées, croisées pour obtenir une fleur énorme qui, la plupart du temps, alors soit n'a pas les éléments, c'est-à-dire le pistil et les étamines accessibles pour les insectes parce qu'ils sont protégés au milieu de tous les pétales, soit, tout ont les étamines qui se sont transformées en pétales et qui sont des plantes devenues stériles. Donc des fleurs simples, toutes bêtes, style fleurs des champs, donc coquelicots, bleuets, cosmos, etc., lavater et compagnie, eh bien ça, ce sont des fleurs qui vont être visitées par les abeilles. Dans nos jardins, on a aussi des tas d'arbustes, notamment les roses, les rosiers à fleurs simples, les rosiers aussi odorants, qui sont très attractifs, et d'autres, et d'autres, et d'autres.
Tiens, on vous questionne. Dites-nous, est-ce que vous avez des abeilles dans votre jardin, sur votre terrasse? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous plantez, par exemple, des fleurs ou des plantes qui font que les abeilles viennent vous voir un petit peu? Dites-le nous, le 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. Si vous nous appelez, on aura beaucoup de plaisir à vous entendre.
Alors, je voulais dire aussi que pendant l'opération donc des fleurs pour les abeilles, vous avez 750 points de vente, donc principalement des jardineries, des magasins, qui vont proposer des gammes spécifiques de plantes mellifères. Ça sera répertorié. Comme ça, vous pouvez les acclimater dans votre jardin.
Patrick, peut-être revenir à la base rapidement. C'est quoi la pollinisation ?
Alors, il y a une chose extraordinaire, c'est que on connaît cela depuis relativement peu de temps. On pensait avant que les étamines, les pistils, ça servait pas à grand chose, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'effectivement, une fleur, c'était tout simplement un sexe. C'était avec, au milieu, donc, son pistil, qui est la partie femelle, entourée d'étamines. Ces étamines portent du pollen, d'où le nom de pollinisation, qui sont, en fait, on va dire le sperme de la fleur, si on veut, puisqu'en fait, ce sont des petits grains qui vont venir sur ce qu'on appelle le stigmate, c'est-à-dire la partie supérieure du pistil qui généralement est collante, et le pollen, lui, il va se coller là-dessus, il va pénétrer à l'intérieur du
pollen, il va féconder,
évidemment, les ovules qui se trouvent à l'intérieur du pistil. Donc, cette pollinisation, c'est le mode de reproduction sexuée des fleurs.
Et sans le vouloir, donc, les plantes arrivent, enfin, non pas les plantes, mais ces insectes pollinisateurs vont perpétuer l'espèce, en quelque sorte, c'est ça ?
Alors, oui, évidemment, parce que, alors, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'y a pas que les insectes qui participent à la pollinisation. Les plantes ont un énorme défaut, elles sont captives, c'est-à-dire qu'elles sont là, et leur partenaire, est ailleurs. Donc il faut qu'elles trouvent des moyens pour pouvoir faire venir ce pollen sur leurs fleurs. Le premier moyen, c'est le vent. Et en général, ce sont des plantes relativement, on va dire, anciennes. ou primitives, si on veut, et notamment bon, les conifères, beaucoup d'arbres, les graminées aussi, sont pollinisées par le vent. On dit que ce sont des plantes qui sont entomogames. Et les insectes viennent en deuxième position, parce que c'est beaucoup plus malin, si vous voulez, de faire venir un insecte volontairement sur la fleur. Alors pourquoi volontairement ? Ben parce que la fleur, elle se pare de jolies couleurs attractives.
Bien sûr.
Elle joue aussi un rôle olfactif avec un parfum, mais surtout, elle va récompenser l'insecte qui vient chercher, soit pour certains, le pollen, tout bêtement. On voit souvent les abeilles, d'ailleurs, sur leurs pattes, elles ont des pelotes de pollen. Jusqu'à 500 000 grains, une abeille peut transporter. Et puis, surtout, elle sécrète du nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré dont se nourrissent énormément d'insectes. Donc là, il y a un échange, et donc du coup c'est beaucoup plus efficace la pollinisation par les insectes, parce que évidemment l'insecte qui arrive sur la fleur, lui en général son corps est poilu, et il suffit qu'il se frotte sur le pollen pour que des grains de pollen se déposent sur son corps, et puis quand il va aller visiter une autre fleur, eh bien en général la forme de la fleur que l'insecte est obligé de se
il se faufile à l'intérieur. Se faufilant, qu'est-ce qui se passe ?
Il se frotte sur le pistil et il y a toujours quelques grains de pollen qui vont pouvoir se disposer.
Et ça suffit. Et ça suffit à féconder la plante.
Évidemment. Et donc, d'où l'utilité très incroyable. Importante. On dit qu'aujourd'hui, 80% des espèces de plantes terrestres sont fécondées par les insectes.
Près de 90% des Français sont inquiets justement de la disparition des abeilles et des insectes pollinisateurs. C'est vrai ? Est-ce que cette inquiétude est légitime ou pas, Patrick ?
Bien sûr, parce qu'en fait, il y a des chiffres très alarmants du genre 75% de la biomasse d'insectes volants aurait disparu au cours des dernières années. Vous imaginez les trois quarts du poids total des insectes volants. Donc il y a vraiment une raréfaction de ces insectes. Et on va dire aussi qu'il faut insister là-dessus, c'est que les productions végétales, celles qui nous alimentent et celles qui servent aussi à faire tout simplement du commerce, sont largement menacées par le fait que les abeilles disparaissent. Donc on a absolument besoin d'eux. On estime que simplement en France, la valeur des pollinisateurs est de entre 2 et 5 milliards d'euros par an. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est un organisme officiel qui fait des chiffres, et ça date seulement de 2010.
Alors on comprend qu'il y a une urgence à repeupler ces insectes, effectivement. Cette opération, Patrick, des fleurs pour les abeilles, donc qu'on invite à semer, est-ce que c'est le bon moment ?
Alors on est un petit peu tard en saison, parce qu'on aurait pu commencer plus tôt, on peut commencer à semer des fleurs des champs dès le mois d'avril, mais l'avantage qu'il y a de le faire en ce moment, c'est que vous allez avoir des fleurs au pic de la saison où souvent les abeilles en manquent. C'est-à-dire, les premières fleurs vont arriver vers le 15 juillet et elles vont durer jusque 10-15 septembre. Et donc c'est le bon moment, effectivement, aussi pour faire, même si vous en avez fait au printemps, faites une deuxième génération de floraison, parce que ces fleurs des champs, elles ne durent pas non plus éternellement. Donc il faut les renouveler, et ça c'est très 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 bien de le faire maintenant, d'aller dans une jardinerie, et puis peut-être aussi vous pouvez acheter un pot de miel. Il y a des miels qui ont été faits spécifiquement pour cette opération, et ils sont accompagnés tout simplement d'un sachet de graines aussi que vous allez pouvoir semer.
Alors justement, cette opération-là, où on peut avoir des graines gratuitement, comment ça fonctionne et comment récupérer ces graines ?
Eh bien, vous allez.
Ce sont des sachets, donc.
Voilà, ce sont des sachets. Vous allez dans une jardinerie. Il y en a beaucoup qui vont vous en donner. Vous le demandez. Il y a des petits leaflets qui sont aussi distribués pour vous faire comprendre ce qu'est l'importance des abeilles. En fait, vous allez voir, il y a tout simplement des affiches qui sont toutes jaunes et qui sont extrêmement simples. C'est des milliards de fleurs pour les abeilles, la semaine des fleurs pour les abeilles. Donc, il faut participer à ça. Et donc, je disais, Miel de France, des fleurs pour les abeilles, eh bien, vous avez dans les enseignes de grande distribution, pendant tout le mois de juin, ces miels-là. Donc, à la fois, vous favorisez l'apiculture et, en même temps, vous allez semer des fleurs qui vont pas forcément attirer, d'ailleurs, les seules abeilles mellifères, mais aussi les très 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 importantes abeilles sauvages. Et je voudrais dire pour terminer qu'il y a une start-up qui vous propose des petites ruchettes pour des abeilles qu'on appelle des osmies et qui sont les peut-être les meilleurs pollinisateurs qui existent. Et donc, ça s'appelle Biome, donc la maison des abeilles. Mm-hmm. Et vous trouvez ça, ça vaut 69 euros. Et vous l'avez sur Internet pour avoir des abeilles sauvages chez vous. Ces abeilles, elles ont l'avantage, elles ne piquent pas. Vous pouvez les observer très très près, ce n'est pas agressif,
oui,
ni rien.
Elles sont,
elles sont surtout extrêmement efficaces. Donc, je rappelle...
Biome.
Biome. B-E-E-H-O-M-E.
D'accord.
Et vous avez ça sur l'Internet. C'est... Suisses qui ont inventé ça, et c'est une très très bonne idée.
On revient dans un instant, météo du jardinier, les coups de cœur de Patrick, vos questions, 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Le week-end des experts, c'est le jardin. Et bien sûr, vos questions au 32-16 via l'appli RMC Direct Studio, la météo du jardinier dans un instant, mais on accueille tout de suite Michel qui est là. Bonjour Michel.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour
et
Michel.
Bienvenue cher Michel. Vous nous appelez du Rhône.
Voilà, oui. Des environs de Mornan dans le Rhône.
Et on vous écoute.
Mont du Lyonnais.
On vous écoute.
On a fait un bougainvillé pour la fête des mères et je l'ai placé au soleil parce que j'ai vu sur Internet que c'était une plante des pays du soleil. Et aussitôt, les bractées, c'est-à-dire les oui. branches rouges, sont devenues pâlissonnes et grisâtres. Et il n'est vraiment pas en forme. Il n'est pas très beau. Donc, je voulais savoir ce qu'il convenait de faire. Est-ce qu'il faut vraiment le placer en plein soleil,
oui.
comme je l'ai fait, ou à mi-ombre.
Mais non, mi-ombre, surtout pas. Le bougainvillier, oui. Regardez sur la Côte d'Azur où sont installés les bougainvilliers, généralement
bien
sur
sûr.
Les façades plein sud, et ils sont couverts de fleurs. Alors, j'ai regardé les photos que vous avez envoyées. Ma question est la suivante. Est-ce que sur les nouvelles fleurs, les fleurs sont roses ou violettes, et que la décoloration se produit après ou alors est-ce qu'elles s'épanouissent bicolores?
Écoutez, il n'y a pas de nouvelles fleurs pratiquement. Il y a des petites feuilles qui commencent à sortir, mais il n'y a pas de bractées qui se forment roses. Alors,
je pense simplement, si vous voulez, que votre bougainvillier il a eu un peu froid, puisque en fait, on a eu quand même des températures qui étaient
oui.
relativement basses pour la saison. Alors, quand on achète une plante, notamment plante d'origine méditerranéenne, enfin je dis d'origine, le bougainvillier est une plante brésilienne, mais en fait on appelle ça aujourd'hui des méditerranéennes, puisqu'il est bien acclimaté sur la Méditerranée, on ne sait pas d'où ça vient. Si,
ouais.
si votre plante, par exemple, et c'est assez fréquent, a été cultivée en Sicile, ou bon, disons dans le sud de l'Italie, et qu'elle arrive chez vous et qu'elle se prend une petite dizaine de degrés le matin... c'est normal qu'en fait il y ait une réaction. Donc le bougainvillier, en plus je vais dire que c'est quand même pas la plante idéale pour les monts du Lyonnais. Hein. Vous allez être quand même très très embêté avec ça pendant l'hiver. Si vous n'avez pas de véranda, je sais pas trop comment vous allez pouvoir imaginer conserver la plante. Donc
oui,
ça aussi,
oui.
il faut de temps en temps, alors bon, c'est un peu sentencieux, un peu le sens que je dis, mais il faut être raisonnable par rapport à ses achats et essayer d'adapter les végétaux par rapport au climat plutôt que d'essayer de faire l'inverse, parce que c'est souvent là qu'on commence à avoir des problèmes. Bon, après, si vous avez une belle baie vitrée, etc., pour l'hiver, vous pourrez peut-être arriver à le conserver correctement. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Rien du tout. Alors, vous l'avez rempoté aussi, votre bougainvillier.
Voilà,
donc,
oui. Est-ce que c'est la bonne idée?
C'était peut-être la bonne idée. Après, c'est savoir dans quel type de sol vous l'avez mis. Donc, moi, j'aurais fait un mélange de sable, de terreau et de terre de jardin. Souvent en sac qu'on achète comme ça dans le commerce sont rarement totalement adéquates pour le bougainvillier, notamment parce qu'ils sont très très riches en humus et en azote, ce qui est pas forcément ce qu'adore cette plante. Donc c'est vrai qu'un sol un petit peu plus sableux aurait peut-être été préférable. Mais bon, maintenant c'est plus le moment hein, de le changer de peau, donc essayez de faire en sorte de peut-être pas trop le nourrir. Voilà.
7h-10, c'est RMC. Merci Michel. Il est temps de retrouver Météo du Jardinier maintenant. Comme chaque samedi matin dans ce rendez-vous jardin, Patrick a scruté les cartes de Météo France. Est-ce que le jardin va se sentir bien cette semaine, Patrick?
Alors, au-dessus du orage à Saint-Germain, mauvais temps nous amène. On va avoir un peu une connotation orageuse. Alors c'est vrai que là, bon, le samedi, c'est pas très bien. En revanche, ça va s'améliorer à partir de demain, avec une journée sèche, bien ensoleillée, et des maximales pratiquement de saison, on va dire de 17 à 27 degrés, une moyenne autour de 20-20 degrés. Donc là, on va avoir des conditions tout à fait adéquates pour pouvoir faire du jardinage demain. Ça sera absolument pareil lundi, avec des montées en température assez importantes, puisqu'on sera passé à 23-25 degrés de moyenne. On aura jusqu'à 30 du côté d'Avignon. Donc ça sera vraiment la journée barbecue si vous avez la possibilité de le faire. Si vous êtes au boulot, ça sera moins agréable, évidemment. Attention, ça sera une journée aussi à terminer par de généreux arrosages, notamment au potager et pour vos plantes en pot. On va avoir à partir de mardi encore une montée en température, puisque en fait on aura des moyennes de 27-28 degrés, donc on va se rendre compte que petit à petit on passe à un temps qui va avoir tendance à devenir orageux. Et les orages en matinée vont arriver sur la Bretagne et la Vendée à partir de mercredi, avec pour le reste du pays toujours un grand beau temps, mais dès jeudi on aura vraiment des orages et des précipitations partout, jeudi et
avec
vendredi.
Avec donc, une précision des prévisions
autour pas... de 3 sur 5. D'accord. Enfin, jusqu'à mardi, on est sur 4, hein, donc vous êtes pratiquement certain que jusqu'à mardi,
tout va aller bien.
Ce beau temps. Après, effectivement, le basculement orageux peut varier en fonction à la fois des vents, de la quantité d'humidité atmosphérique. Donc voilà, il faut être prudent. Jardiner dès que vous le pouvez.
Voilà, bah oui. entre deux gouttes et deux averses. Mais disons que le début de la semaine et ce dimanche, ça ira bien. Ouais. Ça va être cool. Patrick, pour terminer, vos coups de cœur de ce samedi matin.
Eh ben écoutez, on a parlé de fleurs sauvages, on a parlé d'abeilles. Moi, j'ai deux livres qui sont très intéressants. Fleurs désuètes, jardin de grand-mère, de Virginie Kéan chez Terre Vivante, pour un livre à 14 euros. C'est un livre qui présente une soixantaine de plantes. Alors, elles ne sont pas vraiment des fleurs désuètes. Il y a beaucoup de plantes qui sont très intéressantes pour les abeilles et que l'on connaît dans les jardins, qu'on n'utilise peut-être pas assez. Et donc, je vous conseille vraiment ce bouquin. Il est tout à fait simple pour tout le monde. Et puis, bien sûr, on parlait des abeilles. Ben, il y a le guide des abeilles, Bourdon, Guêpes et Fourmis d'Europe, chez Delachaux et Niesley. C'est vraiment la compilation des principales espèces. Il y a énormément de photos. C'est très, très, très intéressant. Et j'avais un coup de gueule pour terminer, parce que là, on est encore en train de marcher sur la tête. Déjà, l'année dernière, la législation avait réduit, on va dire, l'efficacité de ce qu'on appelle les rodenticides, c'est-à-dire les produits raticides contre les rats, les fous, les souris, etc. Eh bien là, on est en train de renforcer complètement la méthode de lutte, c'est-à-dire d'interdire la lutte permanente. On sait très bien que c'est pas parce qu'on ne voit pas la présence de rats qu'il n'y en a pas. Et notamment dans les grandes villes, à Paris, ça fourmille. Et
notamment par exemple, dans les parcs, il y en a partout.
Exactement. J'étais hier dans les jardins familiaux de Courcouronnes, ils sont envahis. Eh bien, on n'a plus le droit de mettre en permanence des rodenticides. Il va falloir faire une action qui ne durera pas plus de 35 jours. Il faudra aussi faire un constat de se dire, voilà, il n'y a vraiment plus de rats, j'en vois plus, etc. Oui, vous n'en voyez plus, mais ils sont quand même là.
Donc ça complexifie en fait la lutte, c'est ça ?
Ça complexifie et ça réduit surtout l'efficacité. Donc il est vrai que les professionnels du secteur sont en train de se bagarrer pour ça, mais je voudrais faire un appel quand même à nos politiques. Ayez quand même de temps en temps, plutôt qu'un dogme purement écologiste, aveugle, de temps en temps un regard sur la réalité des choses. Voilà.
Eh bien voilà, ça c'est dit, c'était le coup de gueule de Patrick. Je pense que Christian PC est d'accord en plus, non ?
Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs on a déjà fait des émissions sur le sujet, on y reviendra, parce que dans la maison c'est aussi évidemment
c'est un gros
fléau. Mais moi ce matin même, en sortant de chez moi, j'ai vu un gros rat qui est passé devant moi en plein Paris.
Et vous savez que si vous voyez un rat, c'est qu'il y en a au moins 50 dans l'environnement.
Oui, mais c'est-à-dire que les autres sont cachés, c'est ça.
Voilà.
Patrick, on se retrouve la semaine prochaine.
Les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière aussi, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.
Et dans un instant, on va sécuriser la maison à l'approche des vacances avec Christian.
Oui, il y a du
nouveau. Voilà. Et avec nos invités, le 32-16, la RMC Direct Studio pour nous joindre. On revient après la météo et les infos. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison.